Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Showtime, votre émission sur le partage de la passion du cinéma et de la pop culture sur les ondes de Radio Larzac. Showtime, c'est une émission qui dure depuis 10 ans déjà sur les ondes de Radio Larzac et qui poursuit encore son aventure aujourd'hui avec le 3e épisode de sa 10e saison. Au programme de cet épisode du mois de décembre, eh bien ça sera un programme qui ne va pas trop déroger à la règle de ce qui a été proposé depuis le début de la saison, c'est-à-dire que je vais vous parler un petit peu actu ciné et au fur et à mesure de cet actu ciné, je pourrai rebondir autant sur des sorties que sur des avis en rapport justement avec cette actu ciné et pop culture. Ceci étant dit, j'ai pas plus à vous dire. Showtime saison 10 épisode 3, c'est parti. Et sans plus tarder, on va rebondir sur l'actualité, une actualité qui a tout de même été bouillante hein, en cette fin de mois de novembre et en ce début de mois de décembre avec... notamment la sortie le 23 novembre dernier sur Netflix, hein, la fameuse plateforme de streaming de SVOD. Mais oui, est sortie donc la première saison de Wednesday, mercredi, dans notre chère langue de Molière. Mercredi, Addams a donc sa série à elle. C'est une série par Alfred Gogg et Mark Millar. Est-ce que ces noms vous parlent ? Peut-être Miles Millar, pardon. Et est-ce que ces noms vous parlent ? Peut-être bien, puisqu'ils ont bercé, peut-être bien, l'adolescence de certains avec une série très super. Ça vous parle ? Oui, c'est ces messieurs à qui l'on doit Smallville et ici Récidive avec une série Teenage, qui se place dans l'univers de la famille Addams, qui est supervisée également par Tim Burton, et qui permet à Jenna Ortega de prêter ses traits au personnage de Mercedes Addams dans une série qui se présente avec le synopsis que voici. À présent étudiante à la singulière Nevermore Academy, Wednesday Addams, Mercredi Addams, tente de s'adapter auprès des autres élèves tout en enquêtant la suite d'une série de meurtres qui terrorise la ville.
Nevermore a été conçu pour être un sanctuaire pour nos enfants, où ils peuvent s'instruire et grandir, peu importe qui ils sont ou ce qu'ils sont. Allons voir votre camarade de chambre.
Est-ce que tu te sens bien ? Je te trouve un peu palote.
Veuillez excuser Mercredi, elle est allergique aux couleurs.
Oh, c'est fou. Ça te fait quoi ?
Ça me donne de l'urticaire et ma chair se détache de mes os. Je fais croire que ça m'est égal qu'on ne m'aime pas. Mais au fond de moi, en réalité, j'adore ça. Boum. Il y a quelque chose de pas net ici. Pas seulement parce que c'est une école. Des confréries occultes, des bibliothèques secrètes. Un monstre meurtrier. Quelles autres surprises me réserve Nevermore ?
Oncle Fétide !
J'aime voyager incognito. C'est parti, en route !
Nevermore est un endroit qui suscite plus de questions qu'il ne fournit de réponses. Je ne m'arrêterai pas avant d'avoir découvert la vérité. Je sais, le suspense est insoutenable.
Mademoiselle Thornhill, je suis sûre qu'Enid t'a réservé le plus chaleureux des accueils.
J'ai failli étouffer de tant d'hospitalité. J'espère pouvoir lui rendre l'appareil. Dans son sommeil.
Sans trop en dire et sans en parler pendant des heures et des heures, je vais tout de même vous en donner un petit avis succinct. C'est-à-dire que cette série est assez déroutante. Moi, à la base, je pensais pas du tout m'y intéresser, mais c'est vraiment le succès détonnant de cette série qui a fait que, oui, j'ai décidé de la regarder un petit peu après qu'elle ait eu été initialement diffusée dans son intégralité, c'est-à-dire le 23 novembre, on pouvait tout regarder de bout en bout. Et justement, ça a commencé à faire tellement le buzz par rapport à des temps de visionnage, etc., tout comme la fameuse scène de la danse qui est devenue aujourd'hui virale et qui fait polémique, on en y reviendra un petit peu ensuite, mais tout cela a fait que j'ai décidé de visionner le tout. Notamment aussi grâce à une collègue de boulot qui m'a demandé si j'avais visionné la série, etc. Et qui m'avait un petit peu averti aussi sur le côté teenage. Car oui, le côté teenage est là, c'est vraiment une série adolescente, même s'il y a certaines nuances au niveau de l'humour noir, un peu cocasse, va-t-on dire, sur certains aspects. Mais oui, cette série est teenage, puisque dès son ouverture, on se place justement dans un lycée, l'ancien lycée de Mercredi Adams, qui va faire un petit quelque chose qui va l'amener du coup à être transféré à l'académie Nevermore, une académie de freaks. De freaks, c'est-à-dire qu'ici, il étudie les différentes créatures surnaturelles que sont vampires, loups-garous, sirènes, voilà, etc., etc. C'est le personnage de Gwendoline Christie, qu'on a déjà vu dans Game of Thrones par exemple, qui incarne Larissa Wims et qui va essayer de superviser un petit peu Mercredi en faisant en sorte de la mener assez régulièrement elle a été un petit peu obligée, mais oui, à aller voir une psy, le docteur Kinbot. Mais bien entendu, c'est une arrivée en ville qui déplaît quelque peu à certains locaux, notamment le shérif Donovan Galpin, qui dit à son fils de garder un petit peu ses distances. Mais, série teenage oblige, des liens vont se créer entre ces différents personnages, et pas que Mercredi avec le fils de Galpin, mais également avec d'autres personnages, etc., etc. Je vous en passe. Cependant, il va y avoir un couac avec un meurtre, des meurtres, une série de meurtres qui va amener Mercredi à développer une capacité qui va faire qu'elle va essayer d'élucider le truc pour le... c'est un peu difficile à savoir pourquoi Mercredi a voulu faire ça. Dit comme ça, moi j'ai plus envie de dire qu'elle a tenté de résoudre le meurtre déjà pour le challenge. Ensuite est arrivé les événements qui font que c'est vraiment pour préserver l'académie qu'elle a tenté de tirer au clair toute cette affaire. Bon, grosso modo, ça c'est l'histoire. Je pense pas en avoir trop spoilé. Bon, ça va, ça le fait. Et cinématographiquement parlant, les 4 premiers épisodes, on va pas se cacher, ils sont bluffants. Notamment parce que c'est aussi Tim Burton qui a la réalisation de ces 4 premiers épisodes. Les 4 épisodes suivants, ce sont des réalisateurs différents. Même si on retrouve James Marshall. Et on ne va pas se cacher qu'il nous propose quand même un spectacle à nul autre pareil. Bien qu'il y ait quelques effets spéciaux qui puissent venir à sauter aux yeux, à gêner, mais par rapport au charme un peu old school de certains aspects de la série, c'est quelque peu pardonné et ça fait son petit effet. Après, au niveau de la mort d'original, elle est somptueuse à souhait. Et justement, là où moi, j'ai réussi à apprécier, et c'est un peu grincer les dents parce que du coup, comme on se place dans une série teenage, il y a certains aspects scénaristiques, sans les avoir vus venir à des kilomètres à la ronde, les ficelles sont là, et quand on les connaît, on peut deviner assez facilement certains événements qui peuvent arriver, sans pour autant en tenir vraiment tous les tenants et aboutissants, mais on peut se dire, tiens, il y a ça, c'est bizarre, ça peut intervenir peut-être plus tard, voilà. Enfin bref, ça se regarde, c'est plaisant et ça fait polémique car oui, récemment on a appris que Jenna Ortega, l'actrice qui précédait donc à Mercredi Adams, était atteinte du Covid lors de sa fameuse scène de la danse. Et oui, ça a fait un petit peu polémique, même si la production a dit « Ouais, mais quand ça a été confirmé qu'elle était positive, on a tout arrêté, on l'a enlevé du truc. » Mais pour autant, elle était symptomatique et lorsqu'elle a s'amusé à danser ou quoi que ce soit, elle était positive. Bref. Toute une histoire, les joies du cinéma, un cinéma qui a été beaucoup bouleversé par cette pandémie de la Covid, et c'est pas fini. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Pourtant, je ne vais pas revenir sur les quelques informations qui pop un petit peu à droite à gauche sur la saison 2, parce que je n'ai pas trouvé d'article concret. Bon, supposément 2024, il y a quelques noms qui apparaissent un petit peu pour dire ils vont rejoindre le casting, mais sur le coup, pas vraiment, vraiment plus. Le 2 décembre est sorti The Callisto Protocol de Strike Distance Studio. C'est un jeu vidéo qui est sorti autant sur ancienne génération que sur nouvelle génération et PC, sauf Switch. Et il se présente avec le synopsis que voici. The Callisto Protocol est fortement inspiré par Dead Space et propose de se retrouver sur Callisto, une des lunes de la géante gazeuse Jupiter. Le héros se retrouve dans l'espace et doit se débarrasser de créatures effrayantes en évitant les morts très sanglantes. C'est un jeu donc par le papa de Dead Space. Dead Space, un vieux jeu, hein, pas si vieux que ça, puisque ça date de la station de jeu numéro 3, notamment de cette génération-là. Donc ouais, 2009 à peu près, puisque 2011 c'était Dead Space 2, donc ouais, dans les parages, et ensuite il y a eu Dead Space 3, bref, une bonne série de jeux vidéo d'horreur, et ici, ben, on retrouve le même monsieur derrière le jeu, enfin, à la tête du studio derrière le jeu, et la patte se fait ressentir, notamment déjà avec le HUD, c'est-à-dire l'élément qui permet d'avoir la santé de voir la santé du personnage en temps réel, pareil, le menu pour accéder au fichier audio qu'on peut venir à trouver, ou même son inventaire, ben, ça fait vraiment Dead Space, tout comme l'ambiance, même si jusque-là, j'ai commencé à faire un petit peu le jeu, je mets tout de même quelques petites réserves parce que, je sais pas, pour moi il manque encore un truc, il manque la nouveauté, la folie de Dead Space à l'époque, où justement les nécromorphes, les ennemis de Dead Space, il fallait les tuer en tirant sur les membres, alors que si on tirait dans la tête, ben, l'ennemi il rentrait dans une sorte de frénésie et on risquait très bien de prendre cher. Et ici, ben, les ennemis sont assez classiques, c'est pour le moment de simples zombies. Je suis curieux de voir ce qui peut m'arriver ensuite. Mais pour le moment, je mets certaines réserves sur le jeu. Et lorsque j'aurai terminé, je ne manquerai pas de vous en reparler. Le 2 décembre, toujours, ça a été une journée chargée, notamment en bande-annonce, du côté de chez Disney. Puisque nous est sorti deux bandes-annonces de deux univers différents. Déjà, Disney, maintenant, on l'associe très rapidement avec le Marvel Cinematic Universe. C'est ainsi que nous est arrivée la bande-annonce des Gardiens de la Galaxie 3 de James Gunn, un film qui se présente ainsi. Notre bande de marginaux favorite a quelque peu changé. Peter Quill, qui pleure toujours la perte de Gamora, doit rassembler son équipe pour défendre l'univers et protéger l'un des siens. En cas d'échec, cette mission pourrait bien marquer la fin des Gardiens, tels que nous les connaissons. Le film est attendu dans les salles obscures françaises le 3 mai 2023. Et nous y retrouverons notamment à l'affiche Chris Pratt dans le rôle de Star-Lord, Zoe Saldana dans celui de Gamora, Dave Bautista dans celui de Drax, et j'en passe. Will Poulter se joint à tout ce beau monde dans le rôle de Adam Warlock. Et je vous laisse quelques surprises au niveau du casting. Puisque le grand méchant pourrait ne pas être celui que l'on nous avait éventuellement présenté, notamment dans la seconde scène post-générique des Gardiens de la Galaxie 2, puisque était annoncé Adam Warlock. Mais oui, ça annonce un petit quelque chose de sympa. Je n'ai pas encore vu l'épisode spécial de Noël, il faudra que je le regarde. Lorsque ça se fera fait, je ne manquerai pas également de vous en parler, surtout si ça peut permettre d'avoir quelques petites pistes pour ce volume 3 à venir qui est censé clôturer la trilogie de James Gunn. James Gunn qui est passé du côté de chez DC, mais ça, je vous en reparle tout prochainement. Restons toujours chez Disney, puisque oui, il faut que je vous parle de cette seconde bande-annonce, car oui, maintenant on associe, comme je vous l'ai dit, Disney avec Marvel, mais maintenant, Disney, il va falloir aussi l'associer avec la Fox, mais c'est aussi Lucasfilm, car oui, Disney est associé à Lucasfilm, a racheté Lucasfilm, donc possède de facto les droits de Star Wars, c'est pour ça qu'il y a eu une nouvelle trilogie dernièrement, et également possède les droits de Indiana Jones, et justement, le Indiana Jones de James Mangold, Indiana Jones et le diadème, le quoi ? Indiana Jones et le cadran de la destinée nous a été présenté au travers d'une première bande-annonce dévoilée.
Le désert me manque. La mer me manque. Et ça me manque de me réveiller chaque matin. En me demandant quelle belle aventure cette nouvelle journée nous réserve.
Ces jours-là sont derrière nous.
Peut-être. Peut-être pas.
Je ne crois pas à la magie. Mais il m'est arrivé dans ma vie de voir des choses. Des choses inexplicables. Et j'en suis venu à penser que l'essentiel n'est pas tant ce que l'on croit. C'est à quel point on y croit.
Cet homme,
je suis son parent
éloigné.
Je vais me fâcher.
C'est donc le 28 juin 2023 que nous retrouverons notre cher archéologue, explorateur slash aventurier, incarné, porté par Harrison Ford dans une aventure qui devrait conclure, le barou qui devrait être, oui, le barou d'honneur de ce cher Harrison dans le rôle de notre cher Indiana. Je sais pas ce que vous avez pensé de la bande-annonce et je serais curieux d'avoir votre ressenti. En tout cas, moi, je suis un petit peu sceptique sur certains aspects. Assez classique. Enfin, il me manquait un petit truc pour moi. À voir. En tout cas, si vous voulez m'en parler, vous pouvez également m'écrire à showtime.radio@gmail.com ou oneiroi, oneiroi.studio au pluriel, @outlook.com. Et justement, cette annonce de date de sortie pour Indiana Jones a bouleversé le calendrier du DC Extended Universe, notamment de l'un de ses derniers films, puisque maintenant le DC Extended Universe est appelé DC Universe. Et je parle ici donc du film The Flash de Andy Muschietti. Attendu depuis longtemps, moult fois repoussé, ici il est annoncé à la date du 16 juin en lieu et place du 23 juin comme prévu initialement. Une avancée très certainement pour éviter une confrontation avec Indiana Jones 5. Et d'ici, parlons-en bien, puisque le 8 novembre, beaucoup de news autour de DC ont été dévoilées, notamment des chiffres assez décevants au box-office pour le film Black Adam, qui pourrait justement faire perdre quelques sous-sous hein, à la Warner Bros. Discovery. Et tiens, justement, Black Adam, parlons-en, puisque j'ai enfin pu le visionner. Film sorti le 19 octobre de cette année, Black Adam de René Colessera se présente avec le synopsis que voici. Dans l'antique Kandak, l'esclave Tess Adam avait reçu les super pouvoirs des dieux. Mais il en a fait usage pour se venger et a fini en prison. 5 millénaires plus tard, alors qu'il a été libéré, il fait régner sa conception très sombre de la justice dans le monde. Refusant de se rendre, Tess Adam doit affronter une bande de héros d'aujourd'hui que compose la Justice Society. Hawkman, le Dr. Fate, Atom Smasher et Cyclone qui comptent bien le renvoyer en prison pour l'éternité. Et je vous parle de ce synopsis tout après la bande-annonce.
Black Adam, dis-moi ce que tes pouvoirs t'ont apporté. De la peine et rien d'autre.
J'ai vécu en esclave jusqu'à ma mort. Avant de renaître en tant que dieu. Mon fils a sacrifié sa vie pour me sauver. Je ne m'incline plus devant qui que ce soit.
Dans ce monde, il y a les héros. Et les êtres malfaisants. Les héros ne tuent pas.
Moi, je tue.
J'ai eu une vision du futur. Tu as le choix. Tu peux conduire ce monde à sa destruction. Ou tu peux le sauver. C'est à toi seul d'en décider.
Attention!
Est-ce qu'il vient d'attraper une roquette?
Il a attrapé une roquette.
Mais sérieusement, c'est quoi ce synopsis? Ce synopsis... Pardon, mais il spoil l'un des twists scénaristiques du film. Bref, je vais pas en dire plus, mais oh là 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 là, des fois, comment vous faites vos affaires, les gens? Enfin bref, je vais pas trop m'étaler davantage que ça sur le film, encore une fois. Moi, je l'ai bien apprécié, même si scénaristiquement parlant, on peut se demander où est-ce qu'il cherche à nous emmener. Le film dure 2h05 et ça va vite, très vite, parfois même trop vite, puisque, encore une fois, on se demande vraiment où est-ce que le film cherche à nous emmener, même si son troisième grand acte, est un petit peu plus posé et permet justement de comprendre le pourquoi du comment de certains événements. C'est de l'action quasi non-stop, on n'a pas trop le temps de se poser, même si justement, visuellement parlant, on peut être bluffé. René Colessera, ben, on reconnaît sa patte, on reconnaît sa photo notamment, je pense qu'il a dû être accompagné des mêmes personnes qui l'ont aidé à faire Jurassic World Fallen Kingdom, puisque l'image est ocre, c'est très, très jaunâtre, très orangé, un petit peu sombre sur certains aspects. On pourrait presque renvoyer à ce qu'a pu faire par le passé Zack Snyder pour DC. Mais ici, vraiment, on sent vraiment que le cinéaste met sa patte. Et bien entendu, hein, on passe pas outre hein, certains effets visuels assez bluffants, même si certains sont quelque peu plus grossiers. Tout comme ben, certaines idées de mise en scène peuvent sortir hein, du film, notamment, je pense, lorsque la bande originale de Land d'Alf laisse place à des musiques un petit peu plus populaires. J'ai une des premières séquences un petit peu justement au ralenti où Black Adam fait des trucs un petit peu de foufou hein, sur fond de musique de Led Zeppelin et autant c'est appréciable mais sur le coup moi ça m'a un petit peu sorti du film. Bon ensuite on va pas cacher quelques clins d'œil bienvenus hein, notamment le fait que très rapidement au tout début du film Dwayne Johnson dans son rôle de Black Adam crame la tête hein, d'un poster de Superman genre son visage va être resté dans le mystère puisqu'on sait pas ce qu'il va il en est ou pas hein, de Henry Cavill dans le rôle, même si bon la scène post-générique va confirmer certaines choses, bien que certaines news dont je vais vous parler ensuite laissent un petit peu ce retour, on sait pas vraiment qu'en attendre pour la suite. Ceci étant dit, c'est appréciable, ça se regarde, on sent qu'on est sur une bascule hein, entre ce qu'était DC au cinéma et ce que se propose que se profilerait hein, éventuellement d'ici pour la suite. Après, ça joue beaucoup sur le capital sympathie de Dwayne Johnson, qui est badass à souhait, hein, franchement, l'anti-héros, par excellence dans ce film. Très belle découverte de l'acteur qui joue Hawkman, Aldis Hodge. Pierce Brosnan est bluffant également dans son rôle de Dr. Fate, et on sent que, bon, c'est très certainement par rapport à son âge, le personnage est amené à changer éventuellement d'acteur. Et après, on retrouve notamment des personnages et figures de l'univers DC au cinéma, notamment Amanda Waller, toujours portée par Viola Davis, et excellente. Franchement, le peu de moments où on la voit, on sent vraiment que c'est elle patron, quoi. Franchement, Viola Davis dans le rôle de Amanda Waller est super classe. Voilà, moi je recommande vraiment ce film au visionnage de toute personne qui veut regarder des films un petit peu de super-héros et qui cherche justement une contrepartie à l'univers Marvel, parce qu'ici quand même il y a un petit peu de sang, un petit peu de gore, il y a un peu de violence. Il y a même certains aspects horrifiques hein, sur la fin du film, sans trop en dire. Franchement, on ne boude pas son plaisir. Vraiment, on ne boude pas son plaisir devant. Et encore une fois, je ne peux que vous recommander de le visionner et de vous en faire votre propre avis. ces news autour de DC. Parce que oui, le 8 décembre, nous apprenions que Wonder Woman 3 de Patty Jenkins n'aurait pas lieu. Du moins, le scénario rendu par Patty Jenkins pour son Wonder Woman 3 n'a pas eu grâce auprès de James Gunn et Peter Safran, qui sont les présidents, co-présidents de DC Studios depuis le 15 novembre dernier. Du coup, Patty Jenkins a claqué la porte, a dit « Ok, ça sera sans moi ». Pour autant, qu'en est-il de Gal Gadot dans le rôle? Théoriquement, elle devrait toujours être de la partie, à voir ce qui sera proposé, ce qui lui sera proposé, et notamment quel ou quel réalisateur slash réalisatrice serait amené à la diriger. Et justement, encore dans ce genre, dans ces mauvaises nouvelles, mais Man of Steel 2, Henry Cavill, ben, ça pourrait ne pas faire partie des plans de James Gunn et Peter Safran. Même s'ils ont annoncé dernièrement que leur bible sur les 10 ans à venir pour l'univers DC au cinéma est presque prête et que certaines informations devraient être bientôt dévoilées dans les mois à venir, ben il semblerait que ce ne soit pas le cas, que Henry Cavill ne fasse pas partie de ces plans-là. Du coup, quid de la suite? Il se murmure que sa présence dans The Flash pourrait être supprimée. Et j'en passe. Vraiment. Nous attendons votre réponse, James Gunn et Peter Safran. Ne laissez pas le doute planer. Dans la nuit du 8 au 9 décembre, à 1h30 du matin, a eu lieu les Game Awards. Les Game Awards, c'est une cérémonie initiée par Geoff Keighley et qui permet de récompenser ce média qui est trop injustement parfois décrié. Car oui, c'est un média, un art, qui mérite d'être récompensé. Et justement, cet événement a permis de dévoiler une sorte de feuille de route des éventuelles sorties à venir, et également de récompenser le jeu vidéo comme il se mérite, et également de récompenser le jeu vidéo à la française. Je vous explique. Je vous passe certains éléments de détail qui sont propres à la pré-cérémonie, même s'il y a certains petits jeux sympathiques qui ont permis d'égayer un petit peu notre œil, de nous intriguer, notamment le jeu Post-Trauma. Celui-là, il m'a vraiment intrigué. Il avait une ambiance très Silentinesque, ce n'est pas du Silent Hill, mais pour autant, au niveau de la musicalité, c'est ça qui m'a trompé. Parlons maintenant de la cérémonie en elle-même. Une cérémonie qui a commencé avec l'arrivée de Al Pacino sur scène. Il était notamment là pour récompenser la meilleure performance au niveau acting dans un jeu vidéo. Et c'était un peu un moment assez lunaire, puisque il avait du mal à lire son prompteur, du coup il a un petit peu improvisé son discours. Bref, du coup c'est Christopher Judge, un acteur qui a joué dans Stargate SG-1 et qui prête de sa voix à Kratos dans la série des God of War depuis le reboot de God of War de 2018, qui a gagné la récompense pour sa performance dans God of War Ragnarok. Ensuite, il y a eu moult annonces comme du Hades 2, du Judas, un jeu par les créateurs de la série des Bioshock, Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Demon, prévu pour le 17 mars 2023. Ensuite, nous avons eu droit à la récompense du meilleur jeu indépendant. Et ici, Cocorico, c'est les Montpellier 1-2 Montpellier. Normal, logique. Qui ont été récompensés pour leur travail sur le jeu Stray. Le jeu Stray où on joue ce petit chat tout mignon qui a été séparé de sa famille et qui cherche à se retrouver sa famille. On y verse de la michette, on miaule, on griffe. Sur des tapis et des portes aussi. Mais on prend plaisir. Franchement, il est bluffant à souhait ce jeu. Et la French Qualidad, s'il vous plaît. La prochaine extension de Destiny 2 s'est dévoilée, tout comme Suicide Squad Kills the Justice League, qui va montrer qui va être la dernière apparition dans le rôle de Batman de feu, Kevin Conroy, qui nous a quittés le mois dernier. Et ici, il va incarner une dernière fois le Batman. Last of Us Part 1 sortira sur PC le 3 mars 2023. Et justement, continuons avec une récompense, celle de la meilleure adaptation qui a été décernée à Arcane Arcane, qui est une série française ici encore, Cocorico, s'il vous plaît. Star Wars Jedi Survivor, suite de Star Wars Fallen Order, sortira le 17 mars 2023. Et c'est Cameron Monaghan qui est arrivé sur scène justement pour l'annoncer. Forspoken, un jeu attendu pour le 24 janvier 2023, qui a été à plusieurs reprises repoussé, nous a été présenté à nouveau et a été annoncé une démo. J'ai pu essayer et sur le coup, ouais, je suis pas vraiment hypé. Hein. J'ai essayé de streamer le truc sur ma chaîne Twitch hein, de Vince le Chat. Vous pouvez très certainement y retrouver la vidéo pendant quelques jours. Je vais voir si j'arrive à l'uploader d'une quelconque manière, mais waouh, c'est plat, c'est pas bien folichon. Heureusement, derrière a été confirmé et dévoilé Death Stranding 2 de Hideo Kojima Sensei. Une bande-annonce qui contiendrait de nombreux secrets sur le titre. Et je vous laisse justement la regarder pour essayer d'en percer les différents secrets et mystères. Et pourquoi pas, on peut essayer ensemble. Si vous voyez quelques petites choses qui vous intriguent, n'hésitez pas à me le dire par mail. Vous connaissez les adresses, mais je vous les redis. showtimeradio@larzac@gmail.com Oneroi, O-N-E-I-R-O-I, .studio au pluriel, @outlook.com. Nous continuons avec la meilleure narration dans un jeu vidéo et c'est God of War Ragnarok qui a encore raflé la mise. Tekken 8 s'est présenté dans un trailer, dans une bande-annonce qui mêle histoire et gameplay. Nous devrions très certainement y retrouver le personnage de Jun Kazama que nous n'avions pas revu depuis Tekken 2. Toute une histoire de famille pour cette confrontation finale très certainement entre Kazuya Mishima et Jin Kazama. Meilleure récompense du meilleur jeu VR, Moss Book 2. Meilleure direction artistique, Elden Ring. Meilleur jeu de stratégie, Mario plus Lapin Crétin. Meilleur support communautaire pour un jeu vidéo, Final Fantasy XIV. Meilleur jeu pour son impact émotionnel, As Duck Falls. Baldur's Gate 3 s'est également présenté et est annoncé et attendu pour août 2023. Diablo 4 a confirmé sa date de sortie, une date de sortie attendue pour le 6 juin 2023. Meilleur jeu de sport et de course, Gran Turismo 7. Meilleur jeu multijoueur, Splatoon 3. Meilleur audio design pour un jeu vidéo, God of War Ragnarok. Meilleur contenu créatif, Ludwig. Meilleur jeu, le jeu le plus attendu, Zelda, Tears and the Tears of the Kingdom. Horizon 2. Forbidden West va avoir droit à une extension nommée Burning Shores qui est attendue pour le 19 avril 2023. Le casting de la série The Last of Us, Pedro Pascal et l'actrice qui joue Ellie, j'ai plus le nom, se sont joints avec Troy Baker et l'actrice qui incarne Ellie dans le jeu et dont je n'ai plus le nom. Mais le casting, autant du jeu que de la série à venir, se sont retrouvés sur scène pour annoncer le meilleur jeu d'action de l'année qui est Bayonetta 3. Le film Super Mario s'est également invité à la soirée avec un court extrait du film. Le titre de meilleure bande originale pour un jeu vidéo a été décerné à God of War. Offers of violence, the bear that keeps to his own line, the wolf that seeks always its own kind, the world that hardens is a harsher winter hold. The parent forced to eat its young before it grows. Every bird gone unheard, starving where the ground is froze. The winter sunrise, red on white, like blood upon the snow. The ground walked here is a wonder.
is never timber. And all things nature's given, she takes all things back from the living. I've walked the earth, and there are so few here that know how dark the night and just how cold the wind can blow. I've no more hunger now to see where the road will go. I've no more kept my warmth than blood upon.
Qui a encore été récompensé pour son innovation au niveau de l'accessibilité. C'est-à-dire qu'ils mettent, y a beaucoup d'options pour permettre aux personnes qui ont des handicaps de pouvoir jouer au jeu. Et il a été récompensé justement pour cela. Elden Ring a été récompensé comme étant le meilleur RPG de l'année. Pour ce qui a été du choix des joueurs vis-à-vis de leur coup de cœur vidéoludique de l'année, c'est Genshin Impact qui a été récompensé. Dans mes notes, j'ai encore noté que Stray a une récompense, mais j'ai un petit doute. Je crois que Stray a eu deux récompenses. Je dis peut-être une bêtise ou pas, excusez-moi. Meilleur jeu d'action-aventure, God of War. Meilleur ongoing game, meilleur jeu qui continue, qui perdure dans le temps, Final Fantasy XIV. Meilleure direction artistique, Elden Ring. Cyberpunk 2077, qui a eu connu des débuts difficiles lors de son lancement, s'est dévoilé, a confirmé son extension Phantom of Liberty, attendue pour 2023, et avec justement au casting de celle-ci, Idris Elba. Armored Core 6, la célèbre série de jeux vidéo de From Software où l'on incarne des mechas, revient et est attendue pour 2023. Final Fantasy XVI, lui, s'est dévoilé dans une bande-annonce qui a permis de confirmer les quelques rumeurs qui ont popé un petit peu avant la cérémonie. C'est-à-dire que sa date de sortie est attendue pour le 22 juin 2023. Et le Game of the Year a été attribué à Elden Ring. Voilà pour un petit résumé, un petit peu longué mais condensé tout de même, de la cérémonie des Game Awards. Vous avez le gros des news, des annonces importantes. et marquantes qui ont marqué la soirée, ainsi que les différentes récompenses qui ont permis justement de montrer que le jeu vidéo mérite aussi d'avoir qu'on y porte son attention et que au même titre qu'un autre art a le droit justement d'être récompensé, et ce n'est pas juste un vecteur de violence, puisque regardez bien, un des jeux marquant de l'année est déjà français et on y joue un petit chat. Donc, voilà.
Faut pas lancer des boules de neige quand elles appartiennent à des messieurs. On mange des flocons au petit-déj, avec mon propre lait c'est mieux. C'est sûr, ça va mal finir, j'ai pas vraiment l'esprit de Noël. C'est sûr, je peux faire pire, je vais tuer des gens, c'est réel. Je vais passer dans les journaux pour finir dans Bad News. Je vais passer en prison pour finir dans Bad News. Vive le gland d'hiver. Je vends des sapins miniatures qui s'adaptent à toutes les formes. Si certains aiment l'aventure, les urgences trouveront ça énorme. Je vais passer au tribunal pour finir dans Bad News. Je vais finir à l'asile pour finir dans Bad News. Faut pas être prix Nobel pour savoir qu'il faut se méfier, qu'il faut craindre le Père Noël quand il descend par ta cheminée. Cette fois, ça peut pas être pire, j'ai niqué l'esprit de Noël ce soir. Je vais m'endormir tranquille comme une hirondelle. Je vais passer dans tes cauchemars pour finir dans Bad News. Je vais passer dans ta mère pour finir dans Bad News. Elle criera, vive le gland d'hiver.
Et je vous en passe encore bien des choses, bien des news, parce que j'en avais relevé tout plein. Mais au final, si je viens tout vous citer, l'émission va durer, et peut-être trop durer. Qui sait, le 11 décembre, on a eu une première image de Joker Folie à 2, où on voit Joaquin Phoenix en train de se faire rasouiller. Il y a eu quoi? Parce qu'il y en a eu plein, le 11. Après, c'est peut-être aussi des news qui ont été rebalancées. Ah oui, j'ai oublié de vous parler de Gen V, la série spin-off de The Boys, dont la première bande-annonce a été dévoilée le 4 décembre. Le film Pirates des Caraïbes avec Margot Robbie ne serait peut-être pas si mort que ça. Peut-être que les choses sont toujours d'actualité. La saison 3 de The Mandalorian se précise avec une date de sortie prévue au 1er mars 2023. Et je vous en passe, il y a aussi une adaptation en série télé de The Dark Tower, enfin bref, tout plein de choses, et c'est ça qui est fou avec fantastique avec ce média que j'apprécie tant et que j'apprécie toujours autant, vous partager sur les ondes de Radio Larzac. Mais ceci étant dit, j'ai pas plus à vous dire, cet épisode de Showtime touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. S'il y a quoi que ce soit à dire sur cette nouvelle formule ou quoi que ce soit, avis, suggestions, envie de discussion, vous pouvez m'écrire à showtime.radiolarzac@gmail.com ou au Neroi, oneroi.studio@outlook.com. Je vous remercie, auditeurs, de m'avoir écouté, et je remercie Radio Larzac pour faire confiance encore et toujours au mainstream et de continuer à me diffuser. Ceci étant dit, je n'ai pas plus à vous dire. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien, offrez du plaisir, offrez du bon temps. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis donc à l'année prochaine.